그. 이따만 머리 있는 불에 바바.
예, 이따만 머리 있는 불로 먹공. 먹공 몰라, 문용아 봉이나 물론 연사.
예,
이따만 머리 있는 불로 먹공. 먹공 몰라, 문용아 봉이나 물론 연사.
Toujours avançant sur ces chemins de la pensée africaine, c'est avec notre habituel compagnon Tinman que nous nous retrouvons. Bonjour à toi.
Bonjour, bonjour à nos auditeurs.
Alors nous continuons de cheminer, comme nous le disons depuis le début, car pour revenir un petit peu en arrière sur cette philosophie, sur cette pensée africaine, le plus important étant le chemin et pas la conclusion du chemin, ni peut-être même le point d'arrivée. Nous avons donc décidé de prendre chemin ensemble et à travers plusieurs réflexions, on saisir un petit peu le contenu et pouvoir permettre à chacun de pouvoir faire son propre chemin, et notamment à travers les contes que tu as déjà partagés avec nous.
Oui, nous cheminons à travers des contes jusqu'à présent, en espérant que nous aurons l'occasion d'aborder d'autres thématiques, sans véritablement laisser le conte, parce que le conte fait partie de, j'ai envie de dire, ce compagnon permanent à travers lequel la pensée africaine se véhicule. Mais certainement, si l'occasion nous sera donnée, nous aurons l'occasion d'aborder d'autres questions.
Nous l'espérons, effectivement, pouvoir l'aborder différemment aussi, parce que, rappelons-le, la pensée africaine n'est pas que le conte.
N'est pas que le conte. Et si tu permets, nous avons commencé à cheminer autour d'un conte, avec un conte. Il serait peut-être important que nous continuions après cette halte que nous avons pris.
Tout à fait. Alors, en quelques mots, il était question de Djobo, le soleil, et de sa compagne, Nyangono. En quelques mots, quel était l'objet de ce conte ?
L'objet du conte de Djobo, le soleil, de Nyangono et des Minkokomi Djob, leurs enfants, se résumait en cet ensemble d'événements que nous avons relaté la dernière fois. Il est peut-être important de reprendre pour nos auditeurs qui ne nous ont pas suivis. Le conte nous dit qu'au commencement, Djobo le soleil, Nyangono et leurs enfants vivaient en paix. Ils se nourrissaient du soleil, ils se nourrissaient du feu. Et qu'un jour, il y a eu un commerçant qui est passé dans le village, et que Nyangono fut séduit par le commerçant, et qu'on ne sait par quelle magie, elle laissa ses enfants et son époux. Et le mari s'étant rendu compte, il se mit à la poursuite de sa bien-aimée. Il paraît que dans sa colère, il éloigna également ses enfants. Mais le conte nous dit, après plusieurs péripéties, que Djobo parviendra finalement à réunifier sa famille, à reconquérir son épouse et à refaire un avec les siens. Voilà globalement la crème de ce conte. Maintenant, il est question peut-être de nous questionner autour des éléments de sagesse que ce conte voudrait nous donner ou nous propose.
Alors, on pourrait revenir à un premier temps sur les protagonistes de ce conte, sur les personnages de ce conte et ce qu'ils représentent peut-être. Dans quel ordre souhaites-tu les aborder ? Commençons-nous par Djobo ou terminons-nous par Djobo ?
Comme tu veux.
Eh bien, alors, je préférerais commencer par la lune, Nyangono. Parce qu'on a eu une petite discussion en préparant cette émission autour des termes et de, donc tu nous présentais la lune comme Nyangono, mais le terme de la lune c'est Gono plus précisément.
La lune s'appelle Ngono dans la langue Beti qui est celle d'origine du conte, c'est la langue Beti. la lune s'appelle Ngono. Mais vous remarquerez dans le conte, la lune également figure la mer. C'est pour cela que, et justement, on dit la mer en petit Nia, notamment chez les Ewondo et les Bétis du Cameroun. Donc Nia Ngono, c'est la mer lune. C'est cet être-là. Et n'oublions pas, sans anticiper, que la mer ou la lune symbolise la féminité. Donc Nia Ngono, c'est à la fois la mer des astres et puis la féminité.
Dans les personnages, on parlait justement des astres, des étoiles qui sont les enfants de Nia Ngono et de Jobo. Ce sont les Minkoko Midjob,
c'est, on va dire, les étoiles du ciel. C'est la formule par laquelle on pourrait résumer cette appellation. Minkoko Midjob, les Minkoko, c'est des étoiles, c'est ce qui brille dans le ciel. Mais il ne faut pas voir dans cette appellation seulement les étoiles, c'est de façon générale l'ensemble des astres qui se situent sur le plan au-dessus de notre système. Et le dernier personnage du conte, ou alors l'avant-dernier personnage du conte, c'est Jobo. Mais avant de parler de Jobo, il ne faut pas oublier le commerçant. Il joue un rôle très important. Le commerçant,
c'est celui qui vient perturber le bon déroulement des choses, en fait, de cette harmonie. Il vient perturber l'harmonie.
On pourrait voir la chose ainsi. Moi, je préfère voir que c'est celui qui vient animer le conte. Parce qu'à quoi nous servirait ce conte s'il restait dans cette permanence de l'harmonie entre Jobo et sa famille? Peut-être que le commerçant, c'est également celui qui apporte du piment, un peu de vie, à ce conte qui devient, par son attirance, par sa capacité à attirer la femme, par ses richesses, ce piment-là qui ressemble au piment quotidien de nos vies, et peut-être même que c'est le déclencheur du sens véritablement initiatique de ce conte, mais nous le verrons lorsque nous aborderons les enseignements.
Donc le marchand dont nous venons de parler, et puis Jobo, le soleil.
Oui, Jobo, le soleil, c'est à la fois le soleil, mais également, je te disais tout à l'heure, on pourrait l'appeler Tara Jobo, c'est-à-dire le père soleil également. Parce qu'il ne faut pas oublier que la pensée africaine est toujours duale. Elle ne conçoit jamais le jour sans la nuit, le mâle sans la femelle, le bon sans le mauvais, le beau sans le laid. Donc, si on a parlé de Nia Ngono, peut-être qu'il serait juste de dire Tara Jobo, ça signifie le père soleil. Donc, en quelques mots, voilà les personnages et, je dirais, des éléments de symbolique qui tourne autour de ces personnages-là.
Alors, nous arrivons donc au moment où nous allons creuser un petit peu sur ce conte. Donc, le plan de départ est autour d'une vie ordinaire, j'ai envie de dire, une vie qui se déroule dans le village où tout va bien, où Jobo, le père, Nia Ngono, la lune et leurs enfants vivent de manière ordinaire et tout va bien, jusqu'à ce que ce marchand arrive. Mais alors, est-ce que déjà c'est ordinaire? Est-ce que tout va bien?
C'est à la fois ordinaire et pas ordinaire. Ordinaire parce que nous avons là une... Le conte est une métaphorisation de, on va dire, de l'organisation et de la vie humaine. Mais il ne faut pas aussi oublier un élément. Le conte nous dit que Jobo et sa famille se nourrissent du feu. Ils se nourrissent du feu. Et c'est peut-être parce qu'ils se nourrissent du feu qu'ils illuminent le ciel, qu'ils nous illuminent depuis la nuit des temps. Il est peut-être très important de voir la chose comme ça et de noter cet élément. Nous y reviendrons peut-être profondément.
Donc voilà, cette famille se nourrit effectivement du feu et le marchand arrive. Alors comment dans le conte
J'aimerais ajouter qu'ils se nourrissent du feu, et le fait qu'ils se nourrissent du feu doit nous interpeller. Ce sont des étranges humains qui se nourrissent du feu. Quels sont ces humains qui se nourrissent de feu? C'est au nombre des questions qu'on doit se poser à l'écoute de ce conte. Mais comment le marchand arrive? On ne sait pas par quel chemin le marchand débarque dans le village. Ce qu'il faut constater, c'est que le marchand va traverser le village et qu'en traversant, il porte en lui beaucoup de richesses et que ces richesses vont charmer la femme de Jobo, Nyangonon, et que celle-ci va, au grand étonnement, on pourrait dire, de nous tous qui suivons le conte, et a priori, on se dit, quelle mauvaise mère. Elle tombe amoureuse et du jour au lendemain, elle abandonne sa famille, elle laisse ses enfants et elle court. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle fragilise la famille. Quand on sait que dans la société africaine, la femme, c'est le fondement même de la famille, on reste interrogatif. Mais on verra au terme du conte que c'est peut-être pas véritablement ça.
C'est une vraie question, effectivement, où tu le soulignais. On pourrait se dire, mais quelle est cette mère qui abandonne sa famille pour un marchand? Est-ce vraiment pour le marchand, finalement, quand on évoque ces notions de richesse, de convoitise, peut-être même matérielle, peut-être?
Je dirais que, littéralement, on entend qu'elle laisse son mari pour le marchand, mais... Si tu ne veux pas qu'on anticipe, ou alors si tu permets qu'on mette le pied dans le plat...
Mettons les pieds dans le plat, alors.
Il faut dire que... Elle quitte son... On va dire, elle quitte sa famille pour des raisons qui me semblent plus profondes. Ce sont des raisons premièrement liées à la dimension cosmologique de ce conte. Vous savez... Les Africains, comme tous les peuples, ont pris le temps d'observer le fonctionnement de l'univers autour d'eux. Et au nombre de leurs observations, il y a l'observation de ce qui se passe dans les cieux, ce que les scientifiques appellent la cosmologie. Et à travers ce conte, on peut découvrir que les Africains, dans leur observation, ont compris qu'à l'origine, il y avait certainement une relation unitaire entre le soleil et la lune, entre tous les astres, et qu'à un certain moment, cette relation unitaire a été fragilisée et il y a eu ce qu'on pourrait appeler, il s'est installé ce qu'on pourrait appeler, en empruntant au langage de des scientifiques contemporains, un phénomène d'expansion de l'univers. Donc, à travers le fait que la Lune quitte sa famille pour les enfants, parce qu'on nous souvenons-nous qu'on avait dit que le conte pour les enfants, c'est un simple moment de distraction. Pour les femmes qui passent la nuit, c'est un moyen qui permet de compter les heures. Mais dans la sagesse, le conte ici éveille aux leçons tirées de l'observation de la nature. Il dit aux enfants de regarder le soleil, de regarder la dynamique cosmologique et de voir, et il leur donne les éléments de la connaissance que leurs ancêtres ont tirés de cette observation-là. Donc, premièrement, moi, je préfère comprendre ce départ de la Lune comme un départ naturel, lié à l'expansion. Il faut à un moment que l'univers entre en expansion, que l'univers entre dans sa dynamique pour que la vie soit. Si l'univers n'était pas entré dans cette dynamique-là, peut-être que nous ne serons pas là. Peut-être que le conte est en train de nous dire, et certainement nous le verrons lorsque nous allons aborder tout à l'heure la deuxième dimension, que le conte, il est nécessaire que le conte, que ce phénomène d'attirance, phénomène d'attraction se déroule pour que véritablement le sens, la sagesse qui est véhiculée par le conte se déclenche.
Alors, au bout d'un moment, donc Jobo rentre en poursuite après sa femme Nyangono. Ils vont s'échapper régulièrement. Il a évoqué quand même ce qu'on appelle les éclipses, notamment quand rapidement Jobo va attraper ou récupérer Nyangono, et puis finalement elle va lui rééchapper.
Oui, il a évoqué ce phénomène d'éclipse et à l'observation, si on observe attentivement, sans avoir besoin d'être un astronome, on le voit clairement. Il y a des périodes lorsqu'on observe le ciel où parfois le soleil et la lune semblent faire corps. Et puis, à d'autres moments, la lune échappe à nouveau. Il y a ces moments-là, si on reprend l'habitude d'observer. Et c'est important de dire que ce conte est peut-être aussi une invitation. Peut-être que l'occasion nous est donnée à travers ce conte de reprendre ce plaisir ordinaire d'une vie humaine observatrice, qui consiste à ne pas rester enfermé totalement dans la maison. On sait que c'est la période des hivers, c'est la période de l'hibernation, mais il y a quand même de belles heures. On peut de temps en temps observer le ciel, et on peut surtout le faire également lorsque le beau temps vient, lorsqu'il y a l'été, lorsqu'il y a le printemps. Il faut garder ce sens-là de l'éveil, de l'écoute, de l'observation de la nature.
C'est effectivement, une fois ce conte compté, justement, ces étoiles, on ne les voit plus pareilles non plus, finalement. Ces enfants de Nyangono et de Jobo, on ne les voit plus tout à fait pareilles, ces étoiles.
On ne les voit plus tout à fait pareilles parce que, d'un point de vue cosmologique, on peut également voir à travers ce qui va se passer à partir du moment où la lune est charmée et s'en va, cette dynamique de vie où on a l'impression chaque fois que les moments d'apparition du soleil coïncident toujours avec les moments de disparition des étoiles et de la lune, et vice-versa. On devient attentif à ce phénomène. Voilà comment la sagesse africaine veut introduire ses enfants, veut introduire les talons usés, les mentons rugueux à ce qu'elle a de plus profond.
Et les enfants dont, a priori, mon regard fait partie, s'imaginent avoir cette sensation de plaisir, parce qu'il arrive parfois que la lune se lève avant que le soleil soit couché, sans qu'ils arrivent à se croiser, sa femme. Et ces petits moments génèrent forcément autre chose.
Oui, ces petits moments génèrent forcément autre chose. On pourrait dire que cette mère, elle est partie, sans véritablement être partie. Elle garde un regard sur son enfant et peut-être qu'elle garde même un peu ou beaucoup d'amour vis-à-vis de son époux. Mais la curiosité, elle a succombé à la tentation de la curiosité parce qu'elle revient toujours. Et tu fais bien de le rappeler, le conte nous dit qu'il y a même parfois des moments d'étreinte. Il y a même parfois des moments d'étreinte. Il faut les comprendre, ça fait aussi partie de la vie. Mais si tu permets, je voulais qu'on aborde, sauf si tu as encore d'autres questions, qu'on aborde la dimension anthropo-cosmologique de ce conte.
Je t'en prie.
Quand je parle de la dimension anthropo-cosmologique du conte, c'est qu'à la fois le conte nous parle des éléments de la nature, du fonctionnement des astres autour de nous, mais le conte associe à son discours sur les éléments de fonctionnement de la nature autour de nous, les éléments de fonctionnement de la vie humaine. On pourrait même dire de la société humaine et de la vie humaine. C'est ça que j'appelle la dimension cosmo-anthropologique du conte. Dans ce conte, on voit clairement que les personnages sont à la fois un astre et un homme, sont à la fois des astres et des humains. Jobo est à la fois le père et le soleil. L'homme et le soleil. Ngono est à la fois la mère et la lune. Et puis les enfants sont à la fois les astres et ils sont, les enfants sont les astres. Donc il est important de noter cette dimension-là. Cette dimension, pour moi, est le deuxième moment, le deuxième degré avant d'aborder la troisième dimension, celle qui pourra, je dirais, la dimension véritablement initiatique de ce conte.
Alors, justement, tu nous guides dans ces compréhensions de conte. Quelle est justement cette troisième dimension plus initiatique de ce conte ?
La dimension plus initiatique du conte se lit d'abord à travers cette logique qui, si on prend l'habitude de cheminer avec les contes africains, tu le remarqueras, sera récurrente. C'est que le conte africain est toujours complexe. Il est toujours complexe, mais il est rythmé par, on pourrait dire, trois moments. Un moment d'ordre, un moment de chaos et un moment de nouvel ordre de complexité. Il s'agit toujours pour le conte africain de nous dire que c'est ça la vie même. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. La vie a toujours un point de départ. La vie a également ce qui l'agrémente et que généralement les non-initiés ou les, on va dire, les cheminants prennent toujours comme des punitions. Mais en réalité, il s'agit des enseignements, des prétextes d'enseignement. Donc, dans ce conte, on voit ce qui se passe chez Nyangono, à la fois chez Nyangono. En fait, ce qui touche les personnages, les trois types de personnages représentent également sur le plan de la société africaine les trois degrés d'évolution de l'humanité. On a Djobo, c'est le père. On a la mère. La mère qui est la femme représente également cet être d'attirance, cet être à la fois, cet être dont la sensibilité est à la fois une force et une faiblesse. Djobo également représente cet homme-là dont la force et la puissance représentant la sagesse est également une force et une faiblesse. Parce qu'il est pris par un courroux et c'est pas parce que sa femme est partie qu'il a le droit de chasser sa femme, de chasser ses enfants. Il y a également les enfants qui, simplement par les cris de leur père, s'enfuient. Donc on a ces trois degrés, les enfants qui sont le plus bas degré au sens initiatique, on dit Bwanga, Binanga en Béti. Binanga, c'est les jeunes, c'est les enfants. C'est ceux-là qui se préparent à commencer le cheminement initiatique au sens sociologique véritable. Certes, ils l'ont commencé à la naissance. Maintenant, on a la femme. Elle représente cet être-là qui est déjà dans le cheminement, mais n'a pas encore acquis le statut de maître. Et on a Djobo, qui lui est certes déjà un maître, mais puisque le chemin n'est qu'un chemin sans cesse parcouru mais jamais fini, même Djobo lui-même montre qu'il a encore un travail à faire. C'est pour ça que je parle de la dimension initiatique. Donc ici, le conte nous dit, voilà les trois phases. Et pour terminer, je dirais que la personne à travers laquelle j'ai découvert ce conte a fait une bonne lecture, une très bonne lecture à mon sens. Il dit que Djobo également, c'est l'idéalisation de ce qu'on pourrait appeler le Nyamoro. Le Nyamoro, c'est quoi dans les langues bantoues, notamment le Béti? Le Nyamoro, c'est l'homme véritable. Djobo, lorsqu'il finit à nouveau par retrouver l'harmonie avec sa famille, représente le Nyamoro. Le sens et le dessein d'une existence humaine est de s'unifier avec soi-même, d'unifier sa bipolarité, sa multipolarité, et d'en faire un. Non pas de les nier, parce que dans l'existence, il faut toujours expérimenter cette dimension, mais la sagesse consiste à consiste toujours à parvenir à les unifier.
Très bien. Sur effectivement toutes ces dimensions prêtes à réfléchir, et c'est vrai qu'on sent à travers ton défrichage, pour reprendre le symbole du cheminement, mais à travers le fait que tu nous guides sur ces questionnements-là, finalement on sent bien que c'est une posture aussi de réceptionner le conte.
C'est une posture de réceptionner le conte. Le conte est un outil pédagogique. Le conte, parfois, il est difficile de qualifier le conte. C'est pour ça que je t'avais dit au départ que dans ce cheminement à travers les contes, parfois, le plus important sera souvent d'écouter les propositions ou les esquisses de sens que nous donnerons pendant le conte ou au thème d'un conte sont certes importants. Mais ils n'épuiseront pas le dire qu'on peut tirer ou la sagesse qu'on peut tirer de ce conte. Il sera question pour chacun d'entre nous d'aller rencontrer le conte dans son expérience personnelle et le conte lui dira encore plus.
Pour conclure cette émission, je t'invite à un choix musical, si tu le souhaites.
Un choix musical, je choisirais la musique d'Akendenge. Akendenge, c'est un musicien engagé et n'importe quelle musique d'Akendenge me conviendra.
Merci beaucoup à toi, Tinman. Et puis, nous ferons une halte sur cette musique et nous reprendrons le chemin prochainement.
À la prochaine.
Tata, mira na mama, ya bey, a que va. Mira na tanda, mira na numba, monge bala mi gemeno, a que va. Mira na ngoza, ngoza y embolonga. Cabe no cambia menos, a que va. Mira na lega, huelega. Caballe, que me pata mi nomba, a que va. Na ve, a ve que, a que va, a que va. Mira na ñele, lo na zael, el un peñele, el uano, na ela. A que va, mira ni gomba, y coquillengue, y gombo arreca a bombe. A que va, na ve, a ver que, a que va, mira nan yagolo, mira nan cune, añulo a ver en cune, va. Nere nirina, yo la vas a la.